RMC, cours numéro 1.
Cours numéro 1, sixième journée des internationaux de France ce vendredi 29 mai. Chaos, sonné, subjugué, dérouté. J'ai envie de dire, c'est pas uniquement la chaleur, mais c'est aussi cette édition de Roland-Garros 2025 qui va rester dans les annales. Heureusement, j'ai à côté de moi Sarah Pitkowski, la voix de la raison. Salut Sarah.
Bonsoir, bonjour, je ne sais plus, mais moi aussi je commence à être dans le rouge.
Éric Salio, la voix de la passion. Salut Éric. Lui, il est tout frais. Il était en repos jeudi, hein.
Salut à tous. Qu'est-ce qu'il a fait, Kwame, jeudi, au fait?
Non, je crois qu'il a fait un petit truc sympa face à un certain Bayero qui a fait des choses moins sympas derrière. On va en parler, mais évidemment, Novak Djokovic éliminé, battu par Joao Fonseca, le joyau brésilien, dans un match d'une intensité exceptionnelle, d'une qualité exceptionnelle. Le score 4-6-4-6. Djokovic menait bien 2-7-0 et ensuite 6-3, 7-5, 7-5. Joao Fonseca. On a peut-être assisté à ce combat de 4h53. Sarah, c'était peut-être pour l'instant le match du tournoi.
Oui, c'est le match du tournoi parce qu'en fait, on est sur le choc des générations. On est sur un passage de témoin. On savait que c'était un test véritable pour Djokovic. Et on a aussi vu que le test, c'est que les matchs longs aujourd'hui, eh bien, on sent que malheureusement, Djokovic décline. Alors c'est terrible de dire ce mot décliner, mais on sent que les intentions sont justes, les occasions il les a, mais en fait il lui manque un peu d'essence dans le moteur, quoi, pour faire la différence comme il le faisait dans des grandes années où c'était lui qui était capable d'enfoncer le clou, de renverser la situation dans des situations périlleuses. Et ben là la pièce elle tombe toujours de l'autre côté. Et puis il s'incline face à une des futures stars, celle qu'on attend. Et c'est aussi sa grande victoire, hein, Joao Fonseca, 19 ans.
Oui, on va en parler de Joao Fonseca, alors que, vous savez, on enregistre juste après le dernier match qui était Quentin Alice face à Sacha Zverev. On est dans les tribunes du Philippe Châtrier et Sacha Zverev est en train de faire le tour un petit peu des tribunes pour faire des photographes, des selfies, prendre le temps, puisqu'on enregistre à 1h du matin. Voilà, tout simplement. Donc on vous fait vivre aussi un petit peu cette séquence. Revenons à Djokovic, Eric. Il peut quand même s'en vouloir, le Serbe. Il mène de 7-0, mais il a eu un break dans le quatrième. Il a eu un break d'avance.
Écoutez, la stat est folle. C'est seulement la deuxième fois dans sa carrière qu'il perd un match alors qu'il mène 2-0. Et curieusement, c'est arrivé à chaque fois à Paris, au stade Roland-Garros. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était arrivé en 2010 contre Zverev, mais c'était sur le Linglen. Donc là, il a vécu une expérience totalement nouvelle. C'est vrai qu'il avait du mal à comprendre, mais il y a un moment... Et Alex Koreja, qui a fait l'interview sur le court du vainqueur, il a bien senti les choses. C'est vrai que les conditions sont devenues plus lentes. Et ça a permis à Fonseca de planter les appuis. Et c'est vrai qu'à un moment, il réussissait tout, quoi. Tous les coups droits passés, et ce n'était pas des petits coups droits, c'était des attaques brutales qui faisaient des trous dans la défense de Djokovic. Et puis la fatigue est arrivée pour Djokovic, et il l'a dit. Hein, on le voyait à l'antenne, moi j'étais en direct, on le voyait tituber, quoi. Au bord du malaise, il a vomi dans la poubelle. Et Sarah le dit, c'est l'âge, la chaleur, l'âge, une préparation très moyenne, puisqu'il a très peu joué, il a joué que le Tour de Rome où il a pris un premier tour. Donc finalement, on arrive donc à la conclusion, on est vendredi soir, enfin samedi matin, on est assuré d'avoir un nouveau vainqueur. Et c'est l'info du jour, un nouveau vainqueur. Il y a 24 mecs qui sont encore dans le tableau, et ils peuvent tous rêver, parce que, ok, il y a des stars comme Zverev, Rude et Berrettini, je pense à ces trois-là parce qu'eux ont connu des finales de Chelem. On les met de côté. Mais les autres, le jeu de Chamboultou peut encore continuer.
Revenons sur Djokovic. Est-ce qu'il fait son âge? Vous nous le dites. Il fait son âge sur terre battue aussi. Cette surface, elle pardonne encore moins par rapport à l'exigence physique requise. Elle pardonne moins aujourd'hui à Novak Djokovic.
Oui, les échanges sont plus longs sur terre battue. Après, il faut savoir que quand on dit qu'à un moment, il y a un peu la tête qui tourne, les nausées, il vomit, mais il faut savoir que tous les autres joueurs sur tous les autres courts vivent les mêmes situations et ils sont en lutte. Vraiment, c'est des warriors, là, les joueurs, sur ce qu'ils vivent depuis une semaine. Il n'y a pas un jour où c'est descendu. Donc, en fait, on accumule de la fatigue et c'est sûr que chez tout le monde, ça pèse énormément. Mais pour Djoko, qui est, comme il le dit, il doit prendre soin de son physique. Il n'est plus aussi endurant qu'avant. Et bien, forcément, les conséquences, elles sont plus douloureuses pour lui. Mais c'est vrai que pour Djoko, Il y a même la question qui lui a été posée en conférence de presse.
On va l'écouter, c'est plus simple. Écoutons Novak Djokovic.
Oui, alors c'est un son. Alors volontairement, on ne vous l'a pas traduit. On voulait que vous entendiez Djoko en anglais, mais vous verrez, c'est un anglais très simple, mais il exprime sa déception. Et surtout, la dernière question, elle n'est pas longue, la pastille. Vous allez comprendre, la question lui est posée. Est-ce qu'on vous reverra à Roland? Écoutez sa réponse.
Quite an incredible match to be part of. Obviously, a tough one for me to lose, being two sets to love up. But huge credit to Joao for really deserving to win the match. I think he, without a doubt, was a better player in important moments in those crucial fourth and fifth. You know, some amazing exchanges and points, and he just, yeah, he found incredible shots, lines. I mean, was just. Amazing from his side. Obviously, not great for me to be facing player playing in such level. But I don't think I've done too much wrong with my game. It's just that he was just better.
Novak, will we see you back at Roland Garros next year?
I don't know.
Je ne sais pas. Alors c'est vrai que l'année dernière, il était parti et Eric était très ému après sa défaite ici, en embrassant la terre battue, en posant sa main comme ça. Et on s'était dit. Il y a un côté adieu. Il est quand même revenu, Novak Djokovic, cette année. On rappelle qu'il a annoncé son souhait de jouer au tennis jusqu'en 2028 aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Bon, dans sa réponse, on doit comprendre quoi, Sarah ? C'est la prudence. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il a manqué 3 mois de compétition entre l'Open d'Australie et Roland-Garros. Il a dit « je suis arrivé quasiment direct à Roland ». Il est plutôt content du niveau de jeu qu'il a affiché, parce qu'on va parler évidemment de Joao Fonseca qui a sorti une performance monumentale aussi, mais on doit lire quoi ? Que Djoko, il va prendre les tournois les uns après les autres quoi.
Bah, je pense que Djoko, qui jusqu'à maintenant ne voulait pas se rendre à l'évidence, parce qu'il était quasiment, Eric, tu vas m'aider, mais tout le temps en demi-finale de Grand Chelem, et qu'aujourd'hui il perd au troisième tour, mais il perd au troisième tour, pas contre n'importe quel joueur, en fait, il perd contre une jeune génération. Donc tu prends de plein fouet de dire que ce 25e titre après lequel il court, c'est plus contre les Zverev, les Alcaraz, les Sinner qu'il doit combattre en fait. Il doit combattre contre les 127 autres joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Djokovic, chaque match est une bagarre. Il a plus sa marge, il a plus son matelas face à tous les autres joueurs. Donc je pense qu'il est obligé de se rendre à l'évidence. Que voilà, que tout le monde devient un adversaire potentiel pour lui, et c'est là que je pense qu'il a pris la réalité en pleine face quoi, et c'est pour ça qu'il dit je sais pas, parce que est-ce que tu continues quand finalement ce 25e titre tu le joues pas en deuxième semaine, tu le joues finalement dès les premiers tours.
Et d'ailleurs la dernière défaite à Roland Garros au stade du troisième tour pour Novak Djokovic c'est 2009. Est-ce que vous avez l'adversaire?
Je vous pose une colle
exprès. 2009, une année évidemment très particulière qui est peut-être aussi fou que ce Roland-Garros 2026, tant il s'est passé de choses. Et d'ailleurs, ça avait sacré un premier vainqueur à Roland-Garros cette année 2009 en la personne du Suisse Roger Federer. Vous n'avez pas l'adversaire ? Autrichien, non, allemand évidemment, allemand. Philippe Kohlschreiber, qui avait battu Novak Djokovic au troisième tour à Roland-Garros. J'ai regardé, hein, je ne l'ai pas sorti de mémoire, je vous rassure quand même.
Je ne l'ai pas du tout. Alors déjà qu'il est tard, il est tôt, mais là, même avec tous mes neurones, je pense que je ne l'aurais pas trouvé celui-là.
Bon, Djoko va se tourner évidemment vers Wimbledon. C'est évidemment un peu plus sa surface, Eric. On sait qu'il adore ce tournoi londonien. Est-ce que, là, j'ai posé aussi la question à Sarah. Tu penses que c'est la fin de son histoire à Paris ou... Ça restera un point d'interrogation jusqu'au lendemain de l'Open d'Australie 2027, par exemple.
C'est dur à dire. Hein. Là, c'est vrai qu'il a répondu à chaud. Il est venu en conférence de presse. Il était un peu irrité quand un confrère américain lui a dit « Vu le tableau, quoi, hein, il n'y avait plus Sinner, il n'y avait plus Alcaraz. » Et là, il dit « Joue, stop. Là. J'ai perdu au troisième tour. On passe à autre chose, s'il vous plaît. C'est pas le sujet. » Un peu sec, tu vois. Mais non, je pense que finalement, Wimbledon, ça reste sa meilleure chance, surtout qu'il n'y aura pas Alcaraz. Alors, Sinner, ça serait revanchard. Mais, autre donnée intéressante, on a vu ça avec Arnaud, il ne sera plus dans les 4 premières têtes de série. Parce que là, il va chuter à la 7e ou 8e place. Donc, ça peut changer son tableau sur le gazon londonien. Bon, maintenant, comme l'a dit Arnaud, tous les adversaires sont dangereux quand on voit des jeunes qui arrivent comme Fonseca. Mais, effectivement, il l'a peut-être perdu ce match face aux deux Français, quoi, Pecci et Royer, où il a laissé beaucoup, 3h44 pour battre Royer, c'est trop. Quand tu es prétendant au titre, c'est trop, donc il a laissé beaucoup de force.
J'allais dire, j'avais même calculé, 6h30 si tu comptes Pecci et Royer, et je disais à des amis en discutant, peut-être qu'il n'a pas eu de chance au tirage, mais sur les deux premiers tours, il ne doit pas passer 6h30 sur le court, Sarah.
Non, mais on est d'accord, mais encore une fois, les conditions sont quand même très compliquées pour tout le monde depuis le début du tournoi. Et encore une fois, mis à part l'Open d'Australie, pardon, moi j'ai été regarder le peu de tournois qu'il a joué, il perd des sets contre des 70, 80 mondiales. Donc en fait, il les perd régulièrement, les petits sets. Avant, évidemment, il te mettait 3, 3 et 2 ou 3, 3 et 4. Donc ce que je veux dire, c'est pas... Y a pas, on ne découvre pas quelque chose. C'est-à-dire que cette lente baisse ou
déclin.
Oui, bah ça m'embête d'utiliser le mot
c'est
déclin.
Le mot.
Ouais, ouais. En fait, c'est un petit peu en pente douce. Et mais on veut toujours y croire parce qu'il nous fait croire. Il nous fait croire parce qu'il joue peu. Donc quand t'es absent, finalement, bah, y a une forme de mystère qui se crée autour de lui. Mais est-ce qu'il s'entraîne? Il ne s'entraîne pas. Et puis, il dit qu'il vient chercher son 25e titre. Et donc, voilà. Mais ça fait un moment, en fait, qui manque ce qui faisait sa force, c'est-à-dire ce sang-froid, cette capacité à jouer tellement juste les points importants, systématiquement. Il jouait juste, il ne faisait pas la faute, il tenait. Et cette justesse, bah, il l'a perdue parce qu'il a moins d'énergie qu'avant, quoi.
Pour conclure sur le dossier Novak Djokovic, est-ce que tu es d'accord, Eric, avec ce que nous dit Sarah? Est-ce que Novak a compris aujourd'hui sur ce Roland-Garros que le 25e, il ira très probablement pas le chercher?
On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça avec Djoko, c'est un animal. Et quand tu vois, il y aura peut-être une dernière fenêtre, pourquoi pas à Wimbledon, parce que quand tu vois le haut de tableau ici à Roland, tu te dis, s'il se trouve dans ce haut de tableau à Wimbledon qui est aussi déplumé, il peut très bien aller en finale. Il l'a dit, il n'a pas pu bosser comme il voulait parce qu'il a eu une petite blessure. Ça l'a éloigné des cours pendant 3 mois, mine de rien. Hein. Donc, il est arrivé un petit peu à court, mais bon, il a fait le job, le niveau de jeu était extraordinaire. Mais donnons le crédit à Fonseca parce que il a été critiqué, Joao. Il a été critiqué parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être monté un peu trop vite. Mais je trouve qu'il s'est servi de ses échecs, entre guillemets, contre Sinner à Indian Wells, contre Alcaraz à Miami, Zverev à Monte Carlo. Là, il jouait son 4e top player. Et voilà. Et là, chapeau, parce que la manière dont il a démoli Djokovic avec des coups droits, mais le bruit des coups droits de Fonseca, oui, c'est la future star. Maintenant, il a souffert pendant 2-7, où il faisait un peu n'importe quoi. Tactiquement, c'était pas juste. Mais à la fin, puis le dernier jeu... Effacer une balle de break et finir sur 3 full ace, waouh,
tu t'inclines. Justement, le oui.
À qui ça me fait penser? À qui il me fait penser? Si c'était l'aventure d'un certain Guga.
Sorti de nulle part,
sorti
97.
Exactement, il est 60 mondial et il va chercher Roland-Garros. Est-ce que une deuxième histoire brésilienne pourrait s'écrire à Roland-Garros?
Après, on le voit un peu venir, Fonseca. J'avais envie de vous dire, on a eu son match de la révélation, Rublev au premier tour à l'Open d'Australie en 2025. Là, c'est son match référence. J'allais dire enfin, parce que ça fait presque 18 mois qu'il y a eu ce match contre Rublev. Et on dit, ah, Joao Fonseca, bon, il apprend aussi son métier de joueur professionnel sur le circuit, avec toute l'attente et la passion des Brésiliens. Sarah, c'est véritablement sa performance référence à date.
Mais oui, parce que pourquoi c'est aussi une référence? Parce qu'il est rentré sur le court, il était quand même tendu dans la première manche. Ce n'est pas évident de jouer sur ce court central. On sait que si les dimensions du court sont les mêmes, le recul, le fait de jouer sur le Philippe Chatrier, face à une légende, comme il l'a dit, qu'est Djokovic, donc il a mis du temps à rentrer dans le match. De revenir de 2-7-0... C'est quand même fort, hein. Vraiment c'est fort, c'est-à-dire de se remettre à l'endroit alors que t'es pris un peu par l'événement et que tu joues ton idole, c'est dire la force et j'ai envie de dire la qualité de tennis, parce que sans qualité de tennis, tu renverses pas une situation. T'as beau le vouloir, t'as beau être fort dans la tête, mais comme dit Eric, si t'as pas les coups du tennis, bah, tu peux faire ce que tu veux. Il a les coups du tennis et il l'a montré. Donc à 19 ans, c'est fantastique. Je pense que le Brésil est en ébullition. Il y a Neymar blessé, mais oui. Fonseca est présent.
J'ai commencé à discuter avec quelques confrères, notamment de Radio France Internationale. Je leur ai dit, mais là, on parle un peu plus de João Fonseca que de Neymar au Brésil. Ils me disent, ah bah oui, là, forcément, c'est la performance de battre Djokovic dans un tournoi que les Brésiliens adorent parce que Guga, même si ils ont une histoire diamétralement opposée, hein, Guga, c'est presque un peu le gamin des favelas, et Fonseca, c'est le gamin d'Ipanema, le quartier très riche de Rio de Janeiro. Justement, il y a l'aspect mental, on va l'évoquer dans un instant, et l'aspect tennis, ce coup droit, mais ce bruit sourd qui rappelle le bruit sourd d'un certain Yannick Sinner quand on l'entend depuis notre position, Eric.
Ouais, non, mais c'est son art, mais c'est vrai que quand il y avait les conditions de jeu très rapides, les balles étaient rapides, il perdait le contrôle, donc il a mis beaucoup dehors. Mais une fois que c'est devenu très lent, qu'il avait le temps de poser ses appuis, on regardait la réaction de Djokovic. Il était dépité, quoi. Ouais, il regardait, son camp. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il met des plombs partout. Et ça partait dans tous les sens. C'est ça qui est génial. Et puis, il est passé quand même à 2 points du match, 2 points de la défaite. Et là, waouh, costaud. Non, ça y est, c'est son acte de naissance. Maintenant, il faut confirmer. Et il n'est pas dans la partie de tableau la plus facile.
Oui, mentalement, moi, je voulais, avant de regarder la partie de tableau, Sarah, faire ce qu'il a fait face à Djokovic, qui est peut-être celui qui détruit le plus le moral de ses adversaires, tellement il ne lâche rien, tellement il n'abandonne jamais. Il l'a dit d'ailleurs, João Fonseca, en conférence de presse, jouer Djokovic, il était honoré et il sait que c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais et qui est surtout très fort pour casser le rythme d'un match et le contrôler à sa manière. Ce qu'a fait Fonseca aussi dans l'aspect mental, ne pas flancher, où il reste un jeune joueur, c'est tout aussi bluffant que les coups de tennis magnifiques, oui, Eric.
Ouais, non, mais moi, ce match aussi m'a fait penser à, parce qu'on peut parler de passation de pouvoir aussi, ça m'a fait penser à Federer, Sampras, à Wimbledon. Et souviens-toi, la réaction de Federer quand il tombe sur les genoux, il est fou de joie. Là, il n'y avait pas de démonstration de joie, parce qu'il y avait énormément de respect envers son adversaire. Et puis peut-être aussi qu'il se dit, ça ne sert à rien de gâcher l'énergie, le mec voit plus loin, ses projets grand chelem. D'ailleurs, Federer s'est penché sur lui, hein. Il est habillé avec la marque de Federer, il a tout ce qu'il faut en management. Voilà, il a été couvé très vite parce qu'il a gagné l'US Open Junior et que ça a fait beaucoup de bruit. Mais je trouve que sa réaction dit beaucoup sur l'ambition du gamin. Federer était sur le...
C'était son idole, Sampras aussi.
Oui, et puis voilà, il tombe sur la moquette, là, et d'ailleurs, après, je crois qu'il perd sur Edman de mémoire. Là, je suis sûr qu'il va continuer, Fonseca. Je sens un destin en or.
Ça rassure Fonseca.
Oui, après, Fonseca, j'ai envie de dire que aujourd'hui, lui, il a fait 5-7, mais il va affronter un Rude qui a fait combien, deux matchs en 5-7, hein.
Et là,
oui, donc Ruud, c'est un peu un survivant. Donc, je pense que physiquement, ça va être encore plus dur pour Casper Ruud de récupérer. Et pour parler de João Fonseca, on le disait, enfin, je l'ai dit en début, j'en perds un peu mes mots, mais oui, c'est un passage de témoin. Ils ont du respect, mais ils ne sont pas écrasés par le poids de leur adversaire, en fait. C'est... à une autre mesure, c'est ce que Gaston disait de Gaël Monfils, il y a beaucoup de respect, mais c'est le respecter, c'est aussi d'apporter une résistance, et c'est ce qu'il a fait. Donc oui, c'est comme disait Eric, c'est un acte de naissance, maintenant c'est affaire à suivre, quoi.
La partie de tableau, donc il y aura dans cette partie de tableau en 8e, Mensik contre Rublev, Rude contre Fonseca, et puisqu'on parlait de Casper Ruud, on va perdre presque 10 degrés dimanche quand Casper Ruud va jouer contre Fonseca, donc ça a peut-être aidé le Norvégien qui avait quand même beaucoup souffert de la chaleur. Rodard, le phénomène espagnol, face à un compatriote Carreno Busta, et De Jong, le rescapé face à Zverev.
Il a gagné au loto, lui.
Ah oui.
Lui, il a gagné au loto parce que, de manière, il est lucky loser au profit, en tout cas pour remplacer Arthur Fils, et il est en 8e de finale. C'est... Ben voilà, il y a des tournois comme ça où vous êtes béni des dieux. Et Luc,
c'est souvent hollandais au Roland-Garros. Hein. On se souvient de Martin Verkerk, évidemment, il y a quelques années.
Oui,
quand tu dis qu'il a gagné au loto, souvent il y a un hollandais. Là, et tous les 15-20 ans, il y en a un qui gagne au loto. Bon, il ne va peut-être pas faire finale hein, parce qu'il va jouer Zverev, ce De Jong. D'ailleurs, que l'on connaît bien juste à côté de la porte d'Auteuil, Eric.
Oui, non, c'est un joueur que le tennis club de Boulogne-Billancourt a recruté pour les interclubs qui se déroulent en hiver. Et Et je vais le citer, Vincent Legros me dit c'est un guerrier, c'est un mec qui rapporte tous les samedis, tous les mercredis son point. Mais vous allez dire qu'il a gagné l'auto, mais enfin il n'a rien volé. Il bat quand même, oui. Il bat quand même Stan Wawrinka. Ensuite il bat China, l'espoir italien. Et le match qui sort aujourd'hui contre Khachanov, faut se le faire quand même hein, sur terre battue. Donc respect total. Mais bon, maintenant c'est Zverev. Alors Zverev, on va en parler parce que moi ça m'intrigue. Hein. Là, il vient de gagner. Julien Benneteau l'a pas trop titillé. Mais moi la question que il se retrouve dans la même position un peu que Federer quand Nadal avait perdu sur Söderling
2009.
Tout le monde le voit soulever le trophée, mais ça me paraît trop simpliste comme raisonnement. Je sais pas ce que t'en penses, Sarah.
On rappelle la victoire de Zverev face à Quentin Alice. On dira un mot sur Quentin, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2.
Oui, effectivement, quand tu regardes le tableau, tu te dis que oui, c'est l'opportunité, c'est la chance de sa vie à Sacha Zverev. Pour autant, le chemin est encore long. Et puis, on ne sait pas comment Sacha Zverev réagit à la pression, parce qu'il n'a jamais été en position d'ultra favori. Pardon. On sait que ça a toujours été l'outsider. Il est resté au statut d'outsider. Donc ça va être intéressant. Alors contre De Jong, je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Mais un Zverev-Jodard en quart, c'est à voir.
Et ça peut se produire. Ça peut être sympa sur cette partie de tableau. Un mot sur Quentin Alice qui a quand même pris un set à Zverev. C'est le premier set que l'Allemand a concédé. Par séquence, Quentin Alice a brillé, peut-être un petit peu dépassé, tout de suite breaké d'entrée en première et deuxième manche. Et il a donné peut-être un peu plus de fil à retordre à Zverev qui a dû quand même un petit peu s'employer.
Oui, non, moi je pense que Zverev, il ne se voyait peut-être pas terminé à 1h du matin. Mais bon, il a jamais paniqué après la perte du troisième que Quentin a totalement mérité. Parce que bon, on connaît son jeu très agressif et quand ça rentre, c'est impressionnant. Quoi. Les enchaînements service-coup droit de Quentin sont fabuleux. Je ne sais pas ce qu'en pense Sarah, parce que je crois qu'elle était dans la box du joueur à l'autre bout du stade par rapport à la cabine RMC. Mais je pense qu'il peut être fier de lui. Hein. C'est un super Roland et je pense qu'il doit capitaliser là-dessus pour le gazon.
Ce qui est bien pour Quentin, alors bon, ça reste une défaite. Mais il n'a pas pris 3-7 comme on a vu la physionomie du premier et deuxième set en disant bon, si ça s'était terminé à 3-7-0, bah voilà, on a eu l'impression qu'il ne s'était pas passé grand-chose et que Zverev n'avait pas été trop bousculé. Mine de rien, il y a quand même ce troisième set intéressant pour Quentin.
Oui, parce qu'en fait, il y avait une tactique qui était prévue. Il a mis du temps à la mettre en place. Il a mis quasiment un set et demi à véritablement mettre la tactique qui était prévue. Et ça récompense quand même le fait de faire l'effort de mettre la tactique en place, parce que même s'il perd le deuxième set, il reste dans une positive attitude, ce qui lui fait finalement aller chercher le troisième set. Après, la tactique, c'est une chose, être capable de l'appliquer à ce rythme-là, à cette cadence-là, à cette vitesse-là, sur un match en 3-7, oui, c'est compliqué. Il a fait son match, sauf que comme souvent, c'est un peu son défaut, il démarre mal. Et c'est malin parce que c'est Zverev qui gagne le toss. Et Zverev le laisse démarrer. Et quand tu viens jouer sur un Philippe Chatrier face à une tête de série, même si ton meilleur coup c'est le service, t'as besoin d'un peu de réglage, si tu veux, t'as besoin de te lâcher. Et donc il se fait breaker tout de suite, mais c'est malin de la part de Zverev. De laisser l'autre servir, parce que tu sais que tu peux en profiter. Et il est tombé dans le piège.
C'est quoi la tactique ?
Vous voulez la tactique ?
Ah oui, tu nous vends, tu nous dis ta tactique, la tactique, on veut savoir.
La tactique, c'était de jouer long et haut sur le coup droit de Zverev et de frapper fort sur le coup droit et après d'aller chercher sur l'over. Mais la difficulté, c'est que pendant un set, les échanges, il les commençait sur le revers en fait. Il avait du mal à aller les chercher sur le coup droit. Puis petit à petit, il s'est mis en ordre de marche, c'est-à-dire les jambes allaient plus vite. Et donc c'est pour ça qu'on a vu le match se rééquilibrer un petit peu, mais quand tu, face à ces joueurs-là, tu peux pas commencer en seconde, il faut que tu passes la cinquième tout de suite. Donc on a vu des belles choses, mais il faut le faire tout de suite.
Sauter à la gorge de Zverev qui donc est qualifié et affrontera donc De Jong. On vous a donc donné les huitièmes de finale qui arrivent. Un mot des filles quand même, puisque bon, on peut dire que les taulières ont assuré. C'est un peu l'inverse des hommes. Hein. On a, d'ailleurs, tu comptais combien de top 10 chez les hommes restants ?
Bah, deux, hein, on ne s'est pas trompé. Il y en a deux. Il y a Zverev et
Et qui, tu l'as oublié, bah, au Ogier-Aliassime.
Au Ogier-Aliassime, oui, il n'y a plus que deux top 10.
Il peut peut-être sauter demain au Ogier-Aliassime, même si sur Nakashima, on donne quand même, ça sera le match de soirée non, d'ailleurs.
Même cette stat-là, elle est quand même rarissime, totalement rarissime. Donc ce tableau, autant on a souvent dit que le tableau féminin, il pouvait se passer des choses et que les meilleurs n'étaient pas au rendez-vous. Mais là,
surtout à Roland.
Oui, mais là, ce Roland-Garros-là, vraiment, il sera marqué dans les annales. Hein. Mais du côté des filles, oui, comme tu le disais, elles sont là et on commence à avoir des matchs qui vont être très intéressants, des huitièmes de finale. Hein. Svitolina, Bencic, ça va valoir le déplacement. Kostyuk, Świątek aussi. Sirstea qui a gagné 6-0 à 36 ans et quelques mois, qui fait sa dernière saison, qui a gagné Rome. Je crois qu'elle a 23 victoires d'affilée.
Je crois qu'elle est à 18 jeux d'affilée. Sirstea, parce que j'ai vu la stat passer.
Oui, bah elle a fait un 6-0 au deuxième set au tour précédent. Donc 6x3, 18, tu comptes bien.
Eh bien, même après une grande journée, ça va, donc, ça me rassure.
Donc voilà, moi je continue à croire que Svitolina a peut-être un chemin qui pourrait l'amener proche de la finale. En tout cas, moi c'est sur elle que je mise.
Il y aura, alors il y a Bencic, et puis derrière, soit Kostyuk, soit Świątek. T'es d'accord,
ouais.
Eric?
Ah ouais, non, mais c'est sympa. Mais bon, Sirstea, elle va jouer la
chinoise.
La gauchère. Parce qu'il y en a deux. Il y a Wang Ziyu, c'est la gauchère, celle-là. Et la surprise du chef, c'est Tekman, la Suissesse, qui a battu Mourova. Et elle jouera à Andreeva. Donc voilà. Non, mais bon, il reste deux top 10. Et puis, je vous fais une passe décisive. Il ne reste plus qu'un Français dans le tableau.
Oui. Moïse Kwame, qui jouera demain. Troisième rotation sur le Suzanne Lenglen, donc c'est-à-dire en plein milieu de l'après-midi face à Tabilo, qui n'a pas joué au deuxième tour puisque Valentin Vacherot s'est retiré. Bon, évidemment, un petit mot sur ce match, Eric Essar.
Déjà, un mot sur la programmation. Moi, j'aurais mis ma maison sur le fait que Amélie Mauresmo aurait programmé Moïse sur le central. Parce qu'on avait étudié le tableau, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre sur le central? Il n'y avait pas d'affiche. Et finalement, donc, tour de passe-passe, c'est Koboli qui ouvre le central et la Night Session, c'est Félix. Alors, est-ce que Moïse a demandé à rejouer sur le Lenglen? Possible. Et puis, il y avait aussi le problème avec le match du PSG. Donc, il risque d'y avoir carambolage puisqu'il joue en troisième rotation, tu l'as dit, après deux matchs féminins. Donc, ça peut commencer quoi, vers 15h, 15h30.
Après un cinquième set au coup d'envoi du match du PSG.
Même à la mi-temps. Autant dire que les écrans ici, ils vont switcher entre le match du PSG et le match de Kwame. Mais pour revenir sur Ogier-Aliassime, mais aussi, on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi les demandes des télés internationales. Et au Canada, forcément, un Ogier-Aliassime en night session, ça permet de l'avoir à une heure raisonnable au Canada. Donc, il faut prendre aussi en considération les télés internationales. On sait que le tournoi de Roland-Garros a renégocié les droits outre-Atlantique pour une somme colossale. Et donc, oui. Ah bah oui, ça a été...
Je ne lis pas la presse.
Ça a été multiplié.
Et c'est pas trop l'homme des chiffres, c'est l'homme des stats, mais pas des dollars.
Mais ça a été très, très, très bien renégocié. Donc, forcément, il faut écouter leurs desiderata.
Et puis, on voit... aussi ce que la télé américaine, TNT, le plateau incroyable aussi, oui. À Roland-Garros, tout ça. On croit John Isner, Caroline Wozniacki, Eugénie Bouchard, ils mettent les moyens.
Hein. Ouais, bah oui, c'est effectivement, quand tu achètes des droits, tu montres pas que les matchs. Aujourd'hui, on a besoin des analyses avant, après, et puis les analyses d'anciens joueurs, forcément. Donc, tout ça s'inscrit dans une forme de négociation que la direction du tournoi, Amélie Mauresmo, doivent prendre en considération à chaque fois qu'ils font la programmation.
Sarah, tu nous as raconté une drôle d'histoire, et peut-être que ça intéresse les auditeurs. Quant à Alice, il a fait un petit bingo en étant programmé sur le central contre une star. Parce que dans ces cas-là, on sait qu'il n'a pas de sponsor vêtements. Il a, pour ceux qui ont bien observé Quentin, il avait un petit patch sur une épaule. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui contactent l'agent du joueur qui va jouer donc un gros match pour une petite somme intéressante, c'est ça?
Oui, absolument. Tous ceux qui jouent sur le central, eh bien, il y a des marques qui prennent le pari d'acheter la visibilité en one shot. Parce qu'ils savent que le match sera diffusé. Et donc, c'est des négociations qui se font 24 heures avant. Et c'est vrai que c'est extrêmement fréquent et ça se fait partout dans le monde. Hein. Donc,
c'est de Loïs Boisson l'année dernière. Hein. Elle avait eu un patch all, je crois.
Donc voilà, après c'est cousu en quelques heures par des couturières, mais ça fait partie. Et puis ça, voilà, ça arrondit ou ça augmente le prize money.
Surtout, tu dis ça, Eric, parce que Quentin n'a pas d'équipementier aussi. Non. C'est ça sa situation.
Non. Quentin a été lâché par Fila. Et ce qui est marrant, c'est qu'il porte quand même les chaussettes Fila. Voilà, il n'avait pas la casquette ce soir, non, mais il l'a, et aussi le poignet éponge. Donc tu vois, il leur fait une petite fleur. Mais bon, et maintenant il est obligé de s'acheter lui-même ses chemises.
On n'oublie pas Diane Paris, puisqu'il y a deux Français au total, Moïse Kouamé et Diane Paris encore engagés. Ça sera face à Anisimova en deuxième rotation sur le central. Anisimova, tête de série numéro 6. Mais bon, Diane, elle a bien aimé le central la dernière fois, donc pourquoi pas faire un exploit.
Ici, c'est Paris.
Et alors, le match, il y a Kobolitienne avant. Elle est fan de Paris, elle est venue avec un match du PSG. Bon, ça devrait le faire. Hein. Mais bon, Eric, on regardait le nombre de matchs entre 4h et 5h de jeu sur ce Roland-Garros. Colossal.
C'est incroyable. Et puis, moi, je suis effaré par la condition physique des joueurs. Hier, j'étais off, mais je suis allé me balader sur les annexes. Je suis allé voir la fin de match entre Darderi et Comesana. Qu'est-ce qu'ils se mettent, les mecs? Mais ça cavale au bout de 4 heures de jeu. Et le premier qui tire la langue, bah, il pique du nez, puis c'est fini. Et Comesana, moi, je vous recommande, si vous avez des places, je ne sais pas sur quel cours il est programmé, mais le match contre Berrettini, ça s'annonce assez violent, parce que Berrettini, c'est le marteau, mais Comesana, c'est une sorte de mobilette. C'est un garçon qui me fait penser un peu à Coria, très fin, mais il court partout, quoi. Maintenant, Tiafoe aussi à suivre. Il a retrouvé sa raquette. Vous avez suivi l'anecdote. C'était marrant parce que hier, sur le 14, il est venu célébrer ça avec des spectateurs. Il n'a pas fait gaffe. Il a mis les bras et puis il s'est retrouvé sans raquette. Ouais. Mais finalement, ça s'est bien arrangé. Et la personne, c'est une Colombienne, a contacté l'agent de Tiafoe qui lui a filé une paire de pompes. Et Tiafoe a retrouvé sa raquette numéro 1. Parce qu'il y en a qui disent bah, il en a plein d'autres. Oui, mais ils ont leur préféré.
Absolument, et puis elles sont numérotées, et puis il y a les raquettes qui gagnent. Il faut savoir qu'un joueur de tennis est extrêmement superstitieux.
C'est en deuxième rotation du Simone Mathieu, Comesana Berrettini. Juste avant de se quitter, tu voulais parler de Vallejo, l'adversaire au deuxième tour de Moïse Kouamé, puisqu'il y a eu une sacrée polémique tout au long de la journée après des propos qu'il a tenus après la conférence de presse.
Oui, il y a eu le point presse donc en espagnol, enfin en anglais puis en espagnol, et ensuite un journaliste argentin qui travaille pour Clé l'a pris en one-to-one. Alors, je n'ai pas les conditions de l'interview, mais en tout cas, ce qu'il a retranscrit dans son papier, c'est que le Paraguayen n'était pas content de l'atmosphère, pas content de l'arbitrage. Et il dit, un match comme ça, ça aurait dû être arbitré par un homme. Ah, évidemment, là, ça, il a pris une rafale, il a pris un communiqué de la FFT qui va lui infliger une grosse amende. Mais là, ce sont des propos sexistes très graves, parce que l'arbitre, moi je trouve, quand tu es dans l'enfer, entre guillemets, du Langlène, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc,
non, mais je ne vois pas ce qu'un arbitre masculin aurait fait de mieux ou différent. Tu demandes au public de se calmer, mais tout le stade était pour Moïse Kouamé. On aurait joué au Paraguay à Asunción. Autant dire que peu importe qui y aurait eu en face.
D'ailleurs, on a quelques souvenirs au Paraguay.
Oui, exactement, de Coupe Davis, oui, et en Amérique du Sud, c'est assez chaud aussi. Donc oui, je pense qu'en fait, il a parlé probablement à un média paraguayen qui connaît.
Argentin.
Donc il y a eu une forme de proximité, et puis peut-être sur le coup de la fatigue ou de l'énervement, voilà, tu sors ce que... C'est ce que tu dirais à la cafette avec tes coachs, parce que tu en veux à quelqu'un et il faut rendre quelqu'un... Il faut rendre quelqu'un un peu coupable de ta défaite, mais c'est sûr que c'est très juste. Hein, le communiqué, l'amende, c'est le minimum. Hein, c'est le minimum. Aujourd'hui, tu peux pas avoir des propos comme ça. C'est absolument interdit.
Ouais, lui, alors, est revenu, mais j'ai l'impression qu'il a retiré son poste depuis. Il était revenu en disant que c'était des propos. Pour leur contexte, l'organisation a dit forte amende. On se souvient que Fognini avait insulté en italien une arbitre de truie à l'US Open. Il avait pris presque 100 000 dollars, dont la moitié avec sursis, et une potentielle suspension de Grand Chelem. Ça, c'est possible aussi. Bon, c'était quand même un poil au-dessus, hein, en termes de gravité des faits.
Oui, c'est des insultes. Bon, là, c'est des propos... qui sont sexistes. À mon avis, il y a bien...
L'amende, peut-être le prize, la moitié du prize money. Là.
Bah, je ne sais pas, mais il y a au moins 4-0, oui, ça c'est sûr.
Oui, ça va faire mal à Vallejo, mais voilà, il ne fallait pas fauter. Merci beaucoup, Eric, Sarah. On se retrouve demain, peut-être avec encore un tourbillon d'émotions. On n'a que ça tous les jours. Tourbillon de chaleur, tourbillon d'émotions.
Oui, alors bonne nuit, bonjour, je n'en sais plus. Mais nous, on va aller se reposer parce qu'effectivement... Il y a encore une autre journée et il peut y avoir encore des surprises.
Ouais, c'est la dernière journée de chaleur, Eric, faut tenir. En plus, la clim marche plus. Hein.
Ouais. Non, mais là, avec Moïse Comet, ça va aller tout seul. D'ailleurs, on va procéder à un petit déménagement. On va emmener tout le matériel radio dans une cabine du Langlaine parce qu'on ne peut pas commenter Moïse du central. Donc, on va faire tout ce qu'il faut pour être au point pour ce troisième tour. Parce que si Moïse est en huitième de finale, waouh! Là, ça va faire beaucoup de bruit.
Que là, le PSG, on n'en parle plus. Non, je plaisante évidemment. Merci à tous. Cours numéro 1 disponible sur toute votre plateforme de téléchargement. En cours numéro 1 en quotidienne pendant la quinzaine de Roland-Garros. À demain. Ciao.